vendredi 17 février. Je sais que dans quelques heures, vous êtes en vacances. On voit que... Ah non, pas tous. Oh, je suis désolée. Alors, vraiment là, j'ai fait une bourde. Pour certains, ils m'ont dit oui. Alors, je croyais que vous étiez tous dans ce cas-là. Donc, merci infiniment d'être à vous. Je remercie aussi cette conférence est organisée dans le cadre de notre partenariat séminaire d'histoire des sciences dans l'Antiquité avec le laboratoire Herma, en particulier Yves Lafont, et représentée aussi ici par mon amie Lydie Baudiou, avec laquelle nous avons déjà travaillé, fait des journées d'études ensemble. Et je la remercie et je vous remercie tous d'être là pour accueillir une dame qui vient de Suisse, donc qui a fait un long voyage. Et il est vrai que j'avais lu, enfin pour ma part, la manière dont j'ai rencontré Madame Dassen, c'est un article que j'ai lu dans Le Monde des Livres et qui m'a complètement interpellée, comme on dit maintenant, c'est l'embryon humain à travers l'histoire. Quand j'ai vu un thème comme ça, je me suis dit, c'est absolument extraordinaire. L'article était dithyrambique, bien entendu, et je me suis dit, il faut la faire venir, il faut faire venir cette dame. Donc ensuite, on en a discuté avec Yves, et Lydie, bien sûr, connaît Madame Dassen. Je vous remercie beaucoup d'être là, c'est très sympathique à vous. Et vous allez nous parler de la divination corporelle dans l'Antiquité gréco-romaine, mais je ne vous présente pas complètement parce que c'est Lydie, à l'Université de Poitiers, au laboratoire Herma, qui va présenter son amie Véronique Dassen.
Merci à vous d'être venu, par choix ou par contrainte. Voilà, il y a un peu des deux. Et Anne, ils ont cours demain matin à 8h, avec moi. Oui, voilà. Leur présence ici ne les dispense en rien. Voilà. C'est un grand, grand plaisir. Anne l'a dit, et je crois que je me fais de porte-parole d'Yves. C'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Véronique Dassen pour plein de raisons très personnelles, très professionnelles aussi. Je crois ou je sais que c'est la spécialiste du moment sur l'histoire du corps. Avec des thèmes de recherche vraiment novateurs pour nous, parfois, dans notre petit hexagone, qui avons du mal à ouvrir un peu les portes. Et elle a ouvert les portes des jumeaux. Moi, ça reste mon livre préféré. De l'enfance aussi, spécialiste de l'enfance, d'où l'embryon, c'est ce qu'on était en train de dire. Elle voulait dire en aparté, et je reprends le flambeau parce que ça me concerne, le travail sur les gender studies, parce que voilà, c'est aussi travailler sur le corps féminin que de l'ouvrir à une problématique beaucoup plus large que celle des genders, mais aussi, enfin, plein d'autres choses. Les monstres, moi j'ai une grosse affection quand Véronique travaille sur les monstres. Et puis aujourd'hui, puisqu'on va s'arrêter aujourd'hui, sur la divination corporelle. Et vous allez voir, je crois, parce que ça fait aussi partie du grand talent de Véronique. Alors, il y a un vrai talent pédagogique, et je vous l'ai vanté, vous allez le comprendre. Elle est là pour vous, vraiment, véritablement. Et il y a aussi un talent de défricheuse d'objets. Et vous allez voir aussi, j'ai oublié de dire, Véronique est professeure d'archéologie classique à l'Université de Fribourg. Et le travail sur les objets n'est pas que de l'archéologie, n'est pas que de l'histoire de l'art. N'est pas que de l'histoire, c'est aussi, je crois, le talent de rendre tout ça excessivement vivant. Oui, vraiment. Merci, Véronique.
Merci. C'est à moi, bien sûr, de vous remercier aussi, de me donner l'occasion d'échanger ici sur ces sujets qui, j'espère, vont vous passionner. Et vous le verrez, je vais adresser de temps en temps des appels à curieux, puisque c'est un domaine de recherche, et que lentement se collectionnent ces documents qui vont constituer une histoire différente, et vous contribuerez peut-être à la construction de cette histoire. Donc mon exposé va explorer une petite facette de ce vaste domaine que représente l'histoire du corps. Ce corps qui à la fois nous relie aux anciens, puisqu'il a peu changé depuis l'Antiquité, mais qui nous en sépare aussi, puisque les usages, les pratiques corporelles, comme celle de la divination corporelle, varient d'une période et d'une culture à l'autre. Donc ce soir, je vais vous emmener sur les traces de la divination corporelle et plus largement de la mémoire du corps, un sujet dont l'existence m'a été révélée par l'observation d'anomalies cutanées, comme ici, en apparence anodine, mais inexpliquées sur les portraits romains, notamment de l'époque républicaine. Des anomalies qui m'ont amené à entamer une recherche sur le langage de la peau et à découvrir un ensemble méconnu et en partie inédit de traiter de divination corporelle attribuée à un certain Mélampous. Donc mon exposé va vous entraîner aussi dans une démarche. Ce sera aussi l'histoire d'une découverte, d'une avancée. Et je vais le faire en deux parties. Dans la première, j'aimerais contextualiser ce savoir que nous livre Mélampous en le reliant de manière plus large à la question de la représentation littéraire ou figurée de marques identitaires. Et en deuxième partie, je vous présenterai les premiers résultats de cette recherche qui va déboucher d'une part sur la publication d'une édition critique de ces traités de Mélampous, d'autre part sur un livre qui abordera plus largement la question du portrait de la mémoire du corps dans l'iconographie. Alors on va commencer par les marques identitaires. Des marques, vous allez le voir, qui sont les unes, et ça il faudra y réfléchir, présentes dans les textes, mais absentes dans l'iconographie. Et d'autres, à l'inverse, absentes des textes, mais très présentes dans l'iconographie. Et on va réfléchir sur ce paradoxe. Autre paradoxe, c'est que c'est l'ensemble de ces marques corporelles s'inscrit dans un contexte culturel particulier, celui du rapport au corps et à la malformation physique qui caractérise le monde italique et romain. Et ça, c'est très important de connaître pour appréhender ces images. D'abord, vous le savez sans doute, dans la Rome républicaine, on est dans une société où le corps et ses anomalies inquiètent. Les nouveau-nés, par exemple, qui présentent des malformations physiques, sont accueillis comme des signes de mécontentement divin. Ils perturbent la Pax Deorum, l'ordre cosmique, et on les élimine de manière rituelle, selon une procédure complexe, très codifiée, qui va impliquer toute la communauté. Donc voilà pour le contexte. En même temps, ces mêmes Romains vont porter des noms qui désignent à l'origine une singularité ou un défaut physique qui peut être caractérisé en des ancêtres de la famille. Alors c'est très savoureux, hein, y a une longue liste de tous ces prénoms, hein, Strabo, le Louchon, Kellus, qui a des petits yeux, Luscus, le Borgne, Scaurus, le Pied-Bas, Chlorus, au teint blafard, Verrucius ou Verrucosus, le verruqueux. Et on pourrait continuer, hein. Il y a Naso, gros nez, Pédo, qui a les grands pieds, Flaccus, les oreilles pendantes, etc. Donc chaque fois une singularité et qu'on affiche dans un nom. Et c'est étonnant cette diversité, hein, de ces dénominations qui témoignent de cette attention portée aux anomalies physiques. Et pourtant, les poètes satiriques les tournent en dérision, et tournent en dérision les imperfections de la peau, alors que les hommes de l'élite, comme sur cette gemme, vont demander qu'on les montre sur leurs portraits, et même d'autres milieux, comme celui des affranchis, vont les imiter. Alors pourquoi ? Alors pour tenter de comprendre ce paradoxe, je vous propose de confronter différents discours iconographiques, littéraires, médicaux, et je pars de ce contexte particulier, donc qui est celui de l'époque républicaine, où l'on voit, donc 1er siècle avant Jésus-Christ, fin de l'époque républicaine, on voit apparaître une certaine forme de portrait individuel caractérisé par un souci de naturalisme bien distinct de celui qui s'était développé au milieu hellénistique. Pourquoi ? Parce que ces portraits manifestent une volonté d'individualisation qui doit se comprendre dans une société très compétitive où les campagnes électorales se succèdent et où, pour réussir, il faut se distinguer, il faut être identifiable. Et là, par clin d'œil, je vous montre ce graffito de Pompéi, hein, Rufus, hein, alors, genre voter pour Rufus, là, c'est celui qui a le gros nez, hein, vous ne pouvez pas le rater, hein, celui qui a un gros nez et peu de cheveux. Et on se rappelle aussi que les Romains avaient chez eux un nomenclator qui servait à désigner les gens, à pouvoir les nommer, donc c'est important de savoir reconnaître les gens, donc l'importance de l'identité visuelle. Sur ces portraits, les traits sélectionnés constituent un langage. Déjà un premier niveau, un langage qui traduit les valeurs de l'élite. Il y a l'impassibilité de ces visages qui renvoie à la dimension publique du portrait, qui ne cherche pas à reproduire des émotions personnelles. C'est un peu comme nos photopasseports, hein. La photopasseport, elle est très, très impassible. Ce qu'on veut promouvoir, en l'occurrence, c'est la virtus, où se mêlent les notions de gravitas, de constantia, donc de maîtrise de soi, de severitas, de courage aussi, et où on va promouvoir des signes comme ceux du vieillissement, synonyme d'expérience, de compétence, même si pour nous les traits qui disent cet âge sont peu valorisants. Alors on a par exemple représentation de rides, représentation de calvitie, comme ici avec l'indication d'une peau si fine que les veines transparaissent sur la peau, avec des rides qui ont parfois des dispositions très complexes, comme ici, et j'y reviendrai, et même parfois on rend un visage, avec une bouche édentée. Donc on n'a pas peur de montrer des traits qui ne sont pas du tout pour nous valorisants, mais qui renvoient cette idée que la vieillesse égale expérience, égale quelque chose de fort. Concernant les rides, alors je vous en montre d'autres, encore d'autres exemples de rides qui s'agencent d'une façon assez curieuse, qui s'étagent aussi d'une façon hyper réaliste. On a l'impression que c'est comme pour dire qu'il y a 10 rangs de rides, que plus on en a, plus on est expérimenté. Donc on a vu aussi donc cette bouche, c'est une meilleure image, et ce traitement des rides qui tend aussi une sorte d'hyper-réalisme, comme sur le fameux portrait de Patricien du Museo Torlonia à Rome. Parmi ces éléments individualisants, certains choix nous surprennent. Il y a des marques identitaires très présentes dans les textes, comme les cicatrices, qui font presque totalement défaut dans les portraits, et d'autres, rarement évoquées dans les textes, comme les verrues, ou les grains de beauté qui figurent sur les portraits. Alors regardons d'abord l'absence des cicatrices. On a un traité de Rhetorica Irenaeus qui est écrit entre 86 et 82 avant Jésus-Christ, 86 et 82, donc qui est contemporain de nos portraits, et où la cicatrice apparaît vraiment comme le signe distinctif qui permet de reconnaître un individu. Donc quelque chose d'important quand on le représente. Il nous dit le portrait consiste à peindre et à représenter avec des mots l'aspect physique d'une personne, avec suffisamment de précision pour qu'on la reconnaisse. Exemple, je parle juge de cet homme rougeau, petit, voûté, aux cheveux blancs et un peu crépus, aux yeux verts, avec une grande cicatrice au menton. Donc ça fait partie vraiment de l'identité. Et on a d'autres histoires de ce genre-là, comme Auguste, qui nous dit Suétone, demandait de savoir, concernant sa fille, à propos des hommes qui approchaient sa fille, quel était leur âge, leur taille, et jusqu'aux taches et aux cicatrices qu'ils avaient sur le corps. Donc élément identitaire très fort. On a aussi ces éléments-là dans les signalements d'esclaves fugitifs. Là, je vous montre un des plus anciens connus. C'est un mandat d'arrêt contre Hermont, qui date de 156 avant, où on nous dit telle et telle, 18 ans, taille moyenne, sans barbe, de belles jambes, un creux au menton, une tache, on y reviendra, phacos, près de la narine gauche, une cicatrice au-dessus du coin gauche de la joue. Donc, très important, ces éléments identitaires. Et là, j'ai mis un des rares portraits du Fayoum. On pourra y revenir dans la discussion, parce que dans les portraits du Fayoum, très peu d'éléments identitaires de ce genre. Des traits, bien sûr, distincts, mais pas ce genre-là. Par contre, sur celui-ci, un grain de beauté, probablement, un grain de beauté. Mais c'est un exemple tout à fait unique. Donc, la cicatrice apparaît dans ces textes, mais n'apparaît pas sur nos portraits. Pourtant, elle détient une valeur morale aussi importante. Comme l'a bien montré Catherine Barouin dans le beau livre édité par Philippe Moreau, Corps romain, elle témoigne de la valeur de celui qui les a reçus au combat. C'est elles qui vont faire du soldat un exemplum, un modèle. Mais attention, à condition de les avoir reçus au bon endroit, ces cicatrices, c'est-à-dire par devant et pas de dos. Et donc, c'est donc un signe d'honorabilité qui rend remarquable, insignis, au même titre que les titres hérités, comme la naissance ou les ancêtres. Et à défaut d'ancêtres, les homines novi exhibent leurs cicatrices. Et là, je vous ai mis un texte qui se rapporte à Marius, qui dit « Je n'ai pas, moi, d'aïeux, d'ancêtres à invoquer. Je ne puis, pour inspirer la confiance, exhiber les portraits de mes ancêtres, les imagines, ni les triomphes ou les consulats de mes ancêtres, mais des lances en étendard, des phalères et autres récompenses militaires, sans parler de mes blessures, toutes reçues par devant. » Et ironie de l'histoire, c'est encore un républicain, mais contemporain cette fois, qui en 2008 va utiliser la même rhétorique. John Sidney McCain, dans sa campagne, je suis sûre qu'il avait un philologue au chômage à son service, il y en a beaucoup qui se recyclent dans l'administration fédérale, dans son discours au présidentiel de 2008, nous dit, en gros, « I will reach out my hand », je suis l'homme de la situation, je suis l'homme de la situation, « and I have the scars to prove it », et j'ai les cicatrices qui le prouvent, Obama n'en a pas. Mais ce qui est étonnant pour nous, c'est que les représentations figurées ne correspondent pas à ce topos littéraire. Hein, les représentations de généraux valeureux, comme le fameux général de Tivoli, vers 75 avant Jésus-Christ, suivent le modèle de la nudité héroïque grecque, adaptée au goût romain, avec le petit tissu qui drape ce qu'il faut. Donc, il a un torse indemne, hein, incorruptible, une sorte de surcorps, sans les cicatrices dont parlent les textes littéraires. Alors, j'ai regardé un peu dans les portraits. Je vous montre les quelques exemples qui sont cités, mais qui ne sont pas du tout convaincants. C'est les deux exemples. Le seul, peut-être, probable, la seule exception, c'est une tête en basalte, brun noir, qui mesure environ 34 cm, de l'époque ptolémaïque, qui se trouve conservée au musée gréco-romain d'Alexandrie, et qui mêle tradition grecque et tradition égyptienne. Égyptienne à cause du matériau, c'est du basalte, il y a un pilier dorsal, et une esthétique réaliste romaine. Et là, on voit cet homme aux cheveux crépus, qui présente un début de calvitie, et vous le voyez, cette large entaille sur son front. Donc là, ce serait un des rares exemples, peut-être de cicatrices, dont parle Bernard von Bottmer, qui pense à un général de l'armée ptolémaïque. Mais c'est un cas unique. Alors pourquoi est-ce que c'est absent? À côté des textes qui comparent les cicatrices à des titres de bravoure, il y en a d'autres qui offrent une image beaucoup plus dévalorisante, qui les associent à une dégradation corporelle. Quintilien dit, par exemple, qu'un exorde raté comme un visage balafré. Et on a un exemple d'utilisation psychologique de ce souci d'avoir un visage balafré dans ce texte de Plutarque qui se rapporte à la vie de César, qui aurait utilisé cette crainte lors de la bataille de Pharsale. Il se serait même assuré la victoire, puisque face à lui, il y avait l'armée de Pompée, avec deux jeunes gens qui ne souhaitaient pas du tout se voir défigurés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il se doutait que des hommes peu familiers avec les combats et les blessures, jeunes et fiers de leur beauté en fleurs, redouteraient ce genre de coup et ne tiendraient pas contre la crainte du danger présent et la perspective d'être défigurés à l'avenir. C'est précisément ce qui arriva. Il ne supportait pas les javelots pointés vers le haut et n'osait pas regarder le fer brandi devant leurs yeux. Il se détournait et se couvrait la tête pour préserver leur visage. Donc, il a donné l'ordre vraiment de viser le visage. Et ainsi, ils prennent la fuite. Donc, c'est un exemple intéressant à fin stratégique de la psychologie. Dans les textes médicaux, on retrouve cette inquiétude d'ailleurs. Les cicatrices font peur parce qu'elles peuvent se rouvrir inopinément et provoquer la mort. En plus, on pourrait dire que si la cicatrice au visage, même honorable, n'est pas beaucoup représentée, c'est peut-être parce qu'elle évoque les marques déshonorantes de l'esclave dont le corps est marqué. Hein. Un corps marqué, c'est d'abord un corps d'esclave, hein. Même si c'est sur le dos, mais aussi sur le front. Hein. Il peut aussi avoir une marque sur le front. Et l'ambivalence de la cicatrice, je crois qu'elle se voit le mieux dans l'exemple du borgne, c'est-à-dire un homme valeureux qui a perdu un œil au combat, qui est admiré pour cela, mais il a un handicap qui crée vraiment un malaise et qui entraîne d'ailleurs des incapacités religieuses. Je vous donne l'exemple de Sertorius, du sabin Sertorius, qui aurait perdu un œil lors d'un de ses nombreux exploits militaires, notamment aux côtés de Marius. Plutarque en dresse un portrait élogieux. Il ajoute même les noms de tous ceux qui auraient aussi eu un œil crevé, comme Philippe, Antigonus, et dont il nous dit « Je garde pour toujours les signes distinctifs de ma bravoure, c'est ma valeur que l'on contemple en même temps que mon infirmité. » Mais pour d'autres, ou même si donc plus tard que lui l'admire, Olugel, par contre, va dire à propos de ce même Sertorius, « N'est-ce pas aller au-delà des limites de la nature humaine que de se réjouir de la mutilation de son corps ?» Donc c'est déplacé, hein, c'est déplacé. Et on le voit dans l'iconographie, comme indice de ce malaise, trouvez-moi une image de borgne. On ne les montre pas. Et Pline l'Ancien nous rapporte que c'est ainsi qu'Appel, le fameux peintre, va trouver une astuce pour représenter le roi borgne Antigone, qui va mourir à la bataille d'Ipsos en 301. Et nous dit donc Pline, Appel peignit aussi un portrait du roi Antigone qui le représentait privé d'un de ses yeux et inventa un moyen original de ne pas montrer qu'il était borgne. Il le fit de trois quarts, de sorte que ce qui manquait réellement à l'original semblait plutôt manquer dans le tableau et qu'il ne montra du visage que le côté susceptible d'être montré en entier. Donc il y a vraiment une sorte de tabou sur cette représentation d'un œil crevé. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est que dans le cas d'Antigone, on ne le montre pas, mais il porte un surnom, Monophthalmos, celui qui n'a qu'un œil. Donc là, de nouveau, pas de problème dans la dénomination, et que même certains le surnommaient Kyklops, ce qui est délicat. Mais on ne le montre pas. Et on pense que le stratagème d'appel avait été inventé pour Philippe II de Macédoine, qui, comme vous le savez, lui aussi fut défiguré par une flèche que Critobule de Cos a sortie de son visage, des temps sans le défigurer plus davantage. Et on pense que son orbite a gardé les traces de cette blessure, comme le montrent ici les tentatives de reconstitution en cire de l'aspect de la tête du roi à partir donc, des fragments conservés de son crâne, très probablement donc, dans la fameuse tombe de Vergina. Alors, je vous le montre avec quelques poils en plus parce qu'il est un peu plus aimable. Voilà. Maintenant, est-ce que son apparence était aussi impressionnante? Nous ne le saurons jamais, puisque dans les images, les artistes ont toujours gommé cette réalité. Et en fait, on a deux portraits de lui, soit les portraits posthumes, sur les monnaies, ou bien les traits débattus. C'est cette petite tête en ivoire qui vient précisément de la tombe de Vergina, où des spécialistes veulent reconnaître dans l'entaille qui se trouve ici l'évocation de ce globe oculaire blessé. Mais si c'est le cas, c'est vraiment une évocation et pas davantage. Et là aussi, un petit rappel avec l'époque moderne, le XXe siècle. Alors, pour la nouvelle génération, je sais que ça ne va pas vous dire grand-chose, mais l'ancienne, sans doute. Le contraste avec ce genre d'image, pour moi, c'est Moshe Dayan, qui, lui, c'est l'inverse. Il fait la couverture du Times en mettant en avant cet œil impressionnant, qui fait justement appel à cette idée de bravoure, de force, etc. Donc on voit combien c'est culturel, profondément culturel. Maintenant, si les cicatrices sont absentes, les portraits sculptés ou gravés de l'époque républicaine, donc de l'époque augustaine, donc ce premier siècle avant et premier siècle après, vont montrer d'autres sortes de marques de la peau. Des petites anomalies, des excroissances, comme les verrues, les grains de beauté, les fibromes. Alors, je vous dis tout de suite, comme c'est très difficile d'établir, vous le pensez bien, un diagnostic précis à partir de représentations figurées, moi, je vais utiliser le terme de verrues ou grains de beauté de façon totalement générique. En étant bien consciente que différentes affections de la peau ont pu être figurées. Et là, si on regarde au niveau de la terminologie médicale antique, elle est aussi très vague. Et là, c'est aussi un appel, parce qu'à ma connaissance, à ce jour, il n'y a eu aucune étude approfondie sur le vocabulaire de la peau, ni en grec, ni en latin, et ce serait vraiment à faire. Donc là, je vous montre juste de nouveau l'éventail de termes qui existent, qui montrent l'intérêt pour ces anomalies cutanées, bien difficiles à identifier. Pline l'Ancien en mentionne plus de 100. Donc là, c'est qu'un petit choix, 100 lésions de la peau du visage, qui devraient faire vraiment l'objet d'une étude systématique. Les termes les plus usités, donc, c'est naivus, qui peut dire aussi tache de naissance, verruca, macula. Dans ces textes, et c'est ça qui nous interpelle, ces anomalies cutanées sont classées parmi les witia, donc les défauts qu'on veut éliminer, qu'on veut corriger. C'est quelque chose qu'on ne veut pas montrer. Et pourtant, ces anomalies sont figurées. Voilà la plus ancienne représentation qui vient à nouveau d'Égypte ptolémaïque, c'est la fameuse tête verte de Boston, qui est en schiste. C'est la tête donc, d'une statue de prêtre d'âge mûr, au crâne rasé, et au-dessous de l'œil gauche, eh bien, vous le voyez, sur cette belle surface bien lisse, apparaît donc, un nodule. Est-ce que c'est une verrue, autre chose? Donc, c'est une tête aussi qui vient du Serapéum de Saqqara. Donc là, manifestement, on a voulu représenter cette marque. D'autres exemples viennent de l'art de Rome et de la région campanienne. Là, je vous en montre trois. Ça, c'est le fameux buste en bronze de la demeure de Lucius Caecilius Jucundus à Pompéi, qui est individualisé par une sorte de gros fibrome. C'est vraiment un gros truc comme ça qu'il a sur le bas de la joue gauche. Je vous montre de vue pour qu'on le remarque mieux. Ou ici, la statue en pied de Calatorius Quarto, également découverte à Pompéi, et qui a une verrue au-dessus de l'œil droit, et qu'on retrouve aussi dans le milieu des affranchis. Ici, un relief funéraire en marbre du 1er siècle, qui montre en couple Aedius Amphio et Aedia Fausta Melior, son épouse, et l'homme, qui a des traits beaucoup plus âgés que ceux de son épouse, exhibe vraiment une verrue au-dessus du sourcil gauche. Alors, je vous montre des détails. On le voit très bien ici. Voilà, une autre vue, là. On va les trouver aussi sur des documents plus récents. Voilà, deux portraits en marbre de l'époque de Trajan. Alors, il y a toute une géographie du visage. Là, c'est sur le menton. Ici, par contre, sur la joue droite. Et je n'ai trouvé pour le moment qu'une femme, qu'une seule femme, d'époque antonine ou sévère, donc avec un visage très régulier ou très régulier, encadré par une coiffure symétrique, mais à la racine du nez, au coin de l'œil droit, elle a une verrue ou un grain de beauté de forme ronde et un léger relief. Alors là, mon catalogue n'est pas exhaustif, et là aussi, je lance un appel aux curieux. Si vous en voyez, signalez-moi, parce que même ces anomalies sont à peine signalées dans les descriptions de catalogue, donc c'est un peu le hasard. Mais quand même, la collection s'étoffe. Je vous montre les dernières pièces. Ça, c'est Christophe Vendry qui m'a signalé cette publication de Pascal Vipar, c'est de la Gaule romaine, où un portrait à l'entrée d'une domus montre un couple dont l'homme exhibe une grosse verrue, lui aussi, sur le menton du côté gauche. Et donc, on le voit aussi dans la glyptique. Là, je vous montre que deux exemples. Un anonyme, c'est une calcédoine du milieu du 1er siècle, où manifestement, on a voulu montrer cette verrue sur le menton, ou celle-ci, qui se trouve à la haie, c'est sur la joue que se trouve cette anomalie. Donc, étonnant, puisque dans les sources littéraires traditionnelles, médicales par exemple, ces petites anomalies sont qualifiées de disgracieuses, surtout pour les femmes, et on fait tout pour les enlever. Alors, des recettes merveilleuses chez Pline, à part l'application de cresson de fontaine, ça va, on plate de farine, de narcisse, qu'on cuite dans du vinaigre, on utilise des substances exotiques, et bien sûr, plus elles sont exotiques, plus elles sont efficaces, comme la fameuse fiente de crocodile, on le sait, elle sert à tout ce qu'on veut, ou le stellion, en fait, c'est les fientes d'oiseaux qu'on doit récolter dans les interstices des pierres des pyramides égyptiennes, qui a des effets immédiats et qui efface toute tache de rousseur et toute tache, toute macula sur le visage. Alors qu'un extrait parmi beaucoup que je pourrais citer, celui-ci d'Ovide, hein, corrige cette tache, ce naevus, c'est la seule, et si tu la supprimes, il n'y aura plus de défaut dans ton corps si parfait. Donc j'ai d'abord cherché dans les textes physiognomonie pour essayer de comprendre pourquoi on montrerait de telles anomalies. Mais dans les textes de physiognomonie, c'est plutôt associé à des choses négatives. Par exemple, un comportement moral douteux. On n'aime pas les gens qui ont teint tacheté. Donc les roux, par exemple, ont teint tacheté, saupoudrés de lentilles, ils mènent une vie honteuse. Et autre référence, par exemple, dans l'histoire Auguste, on nous dit que Adrien se serait fait pousser la barbe, non pas pour ressembler à un philosophe, comme vous le croyez tous, pas du tout, mais afin de cacher une lésion cutanée qu'il avait de naissance. Donc, il avait une chevelure artistement peignée et une barbe fournie pour cacher les marques qu'il avait de naissance sur le visage. Alors, pourquoi est-ce qu'on les a montrées? Alors, on peut repartir du raisonnement médical, première théorie. C'est que comme la peau est l'organe d'évacuation des humeurs, miroir de l'intérieur du corps, on va très honnêtement montrer l'état de ce corps. Et on sait que Galien est tout à fait contre la chirurgie esthétique, puisque c'est une correction qui va aussi déguiser le véritable caractère du patient et pas simplement, et aussi donc, l'empêcher de bien comprendre sa santé. Donc on va la montrer parce qu'elle caractérise un individu avec un certain tempérament et un certain caractère, même si dans les traités de physiognomonie, on ne le montre pas. Autre possibilité, c'est que c'est un élément de dénomination. On a vu que dans l'identité familiale, elle est faite de singularités physiques. Et que ces singularités physiques, est-ce qu'elles se transmettent elles-mêmes ou non, on ne sait pas, mais en tout cas, le nom se transmet. Et l'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr celui de Cicéron, qui lui-même n'avait pas nécessairement d'anomalie, mais un de ses ancêtres, puisque Plutarque nous dit que Quiquère en latin désigne le pois chiche, et sans doute le premier qui fut ainsi appelé avait au bout du nez une petite fente qui ressemblait au sillon d'un pois chiche et qui lui valut ce surnom. Et on nous dit que quand Cicéron va briguer sa première charge, tout le monde lui dit « mais supprime ce nom, change de nom, c'est ridicule ». Et il aurait dit fièrement qu'il n'en ferait rien, et qu'il saurait rendre ce nom plus illustre que celui de Scaurus, qui veut dire « pied bas », ou de Catulus, qui veut dire « petit chien ». Et le jeu que je vais vous montrer, qui est un jeu d'images, qui va nous mettre sur la piste d'une autre explication, C'est la suite de cette anecdote rapportée par Plutarque, où Plutarque nous dit que quand Cicéron fut questeur en Sicile, il offrit au dieu un ex voto en argent sur lequel il fit inscrire les deux premiers de ses noms, Marcus et Tullius, mais au lieu du troisième, il ordonna par plaisanterie à l'artiste de graver un pois chiche à la suite des lettres. Or, à Dijon, il y a un ex voto en bronze qui représente un portrait de profil avec une grosseur circulaire gravée en relief sur la joue. Et sur le front, il y a une inscription qui livre les noms du dieu et du dédicant. Au dieu Videtilus, Quelbellus s'est acquitté de son vœu à juste titre. Qu'a voulu Quelbellus ? Est-ce qu'il a voulu indiquer le mal dont le dieu l'avait soulagé ? Ou bien est-ce que c'est un détail individualisant, fonctionnant comme un signe identitaire, familial, à la manière de Cicéron ? Parce que Cicéron, il a fait ça pour son ex-voto. Et dans le monnayage des rois parthes, et retenez bien qu'il s'agit des rois parthes, la verrue devient même un signe distinctif pour une dynastie, et même la preuve d'une origine royale. Là, je vous montre une série de monnaies. Celle du haut, ce sont les monnaies donc, d'Orode II, et on voit sur le front du souverain ce petit nodule, cette sorte d'excroissance, qui va apparaître sur celles aussi de les pièces de monnaie aussi de ses successeurs, et même sur plusieurs générations. Ici, vous avez Phraates IV et Vardan Ier, qui tous donc, portent ce nodule sur le front. Ici et ici. Et ça continue avec Vardan II, en 40 et 45 après Jésus-Christ. Donc, on a. Alors, est-ce que c'est une véritable anomalie cutanée qui s'est réellement transmise, ou est-ce que c'est une manière de visuellement dire, souligner cette légitimité, cette ascendance royale ? Là, on touche à la troisième explication, qui pourrait être liée à la pratique de la lecture divinatoire des taches du corps, une pseudoscience apparentée à la physiognomonie, qu'on appelle aujourd'hui métoposcopie, de métopone, le front, c'est-à-dire la science de la lecture des signes et des marques du visage, mais c'est bien plus que le visage, donc il faudrait plutôt parler de morphoscopie, c'est du corps tout entier qu'on va interpréter. Et la limite, en fait, entre physiognomonie et divination est assez floue, puisque Aristote, on le sait, avait déjà travaillé sur la possibilité de prévoir la durée de vie d'une personne à partir de ses signes physiques. Par exemple, il nous dit dans un des petits problèmes pseudo-aristotéliciens, pourquoi les humains, et là peut-être certains d'entre vous se sentiront interpellés, qui ont les dents espacées, ont une vie plus souvent courte ? Est-ce parce que c'est le signe que l'os est d'un tissu serré ? Bon, c'est un peu énigmatique. Hein en tout cas, ça entraîne ce commentaire suivant de Pline. Je m'étonne pour ma part qu'Aristote non seulement ait cru qu'il y ait dans le corps même des signes présageant la durée de la vie, mais encore qu'il l'ait écrit. Et l'anonyme latin, c'est juste pour vous montrer ce rapport qu'il y a entre physiognomonie, donc lecture des signes du corps et divination. Polémon, célèbre physiognomoniste, c'est Loxus, médecin, donc vante cette science, la physiognomonie, au point d'affirmer qu'elle prédit même parfois l'avenir. Et on termine avec Appel, ce petit rappel sur la physiognomonie, où Pline nous dit qu'Appel peignit des portraits d'une ressemblance si extraordinaire qu'Appion le grammairien a laissé un opuscule où il affirme qu'une de ces personnes qui prédisent l'avenir d'après le visage des gens, et que l'on appelle métoposcopoi, indiquait d'après ses portraits le nombre d'années restant avant la mort du sujet, ou encore combien de temps celui-ci avait vécu. Donc, tout ça pour vous dire que la métoposcopie à laquelle on va s'intéresser maintenant a beaucoup d'affinités avec la physiognomonie, sauf que par ce terme-là, je vais désigner une science qui, elle, vise surtout la divination et moins la psychologie, comme vous allez voir que les deux vont se mêler. C'est une science très ancienne, cette métoposcopie. On la connaît par la tradition mésopotamienne, déjà, et qui va se poursuivre dans le monde arabe. Là, je vous montre des extraits de tablettes du 7e siècle avant Jésus-Christ, mais qui certainement fixent par écrit une tradition orale plus ancienne, qui ont été étudiées par Jean Bottero dans un article fondateur sur la divination dans les civilisations mésopotamiennes, et tout récemment par Barabok à Vienne en 2000, qui a repris tout ce corpus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comparé à nos traités de Mélampous, qui datent de plusieurs siècles, sont postérieures de plusieurs siècles, on a la même logique. On a donc des tablettes qui sont consacrées au corps, qui vont passer le corps en revue de la tête jusqu'aux pieds. Et donc là, il s'agit de tâches, umshatu, je prononce très mal le mésopotamien, et on ne sait pas non plus comment le traduire, hein, aller savoir ce que c'est, est-ce que c'est comme anomalie. Alors, sur l'occiput, le coin de l'œil, enfin, on passe vraiment en revue le corps entier, et à chaque fois, on aura un présage qui, normalement, porte plutôt sur sa vie, mais qui peut avoir aussi une coloration psychologique. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on a la même structure, de la tête aux pieds, et toujours aussi cette structure, si la tâche se trouve à tel endroit, conséquence psychologique ou conséquence divinatoire. Et donc, des thèmes comme longévité, maladie, vie familiale, vie publique. Si c'est leur hanche droite, hanche gauche, et on va retrouver ce même découpage. Donc cette pseudo-science, cette science, même appelons-la comme ça, va passer dans le monde gréco-romain, transmise en grec sous le nom de Melampus. On lui connaît trois traités. Le premier s'appelle De Naivis, je donne la traduction latine, donc Perielaion, tout somatos, donc consacré à l'interprétation divinatoire des tâches naturelles de la peau, qu'on appelle Elaïa. Alors on retrouve ce problème de traduction, qu'est-ce qu'une Elaïa ? Une anomalie cutanée de forme ovale, sans doute, comme une olive. Mais est-ce que ça pourrait être aussi un grain de beauté ? Dans la tradition arabe, on sait qu'après vont diverger deux sortes de traités. Il existe des traités sur les verrues et il existe des traités sur les grains de beauté. Et on ne confond pas. Alors ici, apparemment, on a peut-être voulu dire la même chose. Mais voilà. Un autre traité aussi attribué à Melampus fait lui aussi parler le corps, c'est le Peripalmon Mantike, sur les palpitations. Donc il donne des pronostics individuels basés sur l'interprétation des tressaillements involontaires du corps qui traversent les siècles. Hein, c'est quand le nez vous chatouille, quand l'oreille sonne, etc. Voilà. Et le dernier traité, par contre, est un lunarium, un traité très fragmentaire d'astrologie consacré à l'interprétation des phases de la Lune. Là, on quitte l'individuel, on est dans la divination publique, des présages qui concernent la famine, les guerres. Ces traités, pour le moment, on place donc leur rédaction, leur mise par écrit à l'époque hellénistique, parce qu'ils portent une adresse, donc une entrée, à un Ptolémaïos Basileus. Mais on pense que cette dédicace est sans doute fictive, comme le nom de Melampus. En fait, l'examen du niveau du langage, de la langue, dans cette version manuscrite, le niveau de la langue, lui, date des 5e, même 6e siècle après Jésus-Christ. Donc, un certain flou. Le niveau, en tout cas, qui a été mis par écrit, que nous avons dans la tradition manuscrite, date du 5e, 6e siècle après. Je ferai allusion, et on en reparlera, des papyrus, par contre, d'Égypte romaine, qui, eux, datent des 2e, 3e siècle après. Donc, on a l'impression vraiment d'un savoir mouvant, qui est par différentes étapes, est mis par écrit. On pense que ces trois traités ont formé un seul livre, que mentionne Artémidor d'Éphèse dans La Clé des songes, où il nous dit, si l'on voit à propos de souris quelque chose d'un peu compliqué, on pourra appliquer au rêve les exégèses que donne Melampus dans son livre sur les prodiges et les signes. Donc on pense qu'il y avait un livre qui comprenait au moins ces trois traités. Quelques mots peut-être sur ce nom de Melampus, il doit vous rappeler quelque chose, c'est bien sûr le nom d'un devin célèbre, mythique, donc certainement un nom fictif, hein, on aime bien donner des noms de ce genre-là à des traités, qui donnent une autorité à des traités, donc un devin guérisseur de Thessalie. Dans les traditions manuscrites, on va trouver d'autres noms. La Souda va dire que la Sibylle a écrit le traité Peripalmon, Panmon. On trouve aussi que Hermès Trismégiste aurait écrit le traité Peripalmon. Ici, je vais me concentrer, dans le temps qu'on a, sur le premier de ces traités, donc sur les verrues, qui a connu une très grande vogue au XVIe siècle, à la Renaissance, liée notamment à l'influence de Jérôme Cardan, qui est un homme étonnant de la Renaissance, médecin, mathématicien, occultiste, milanais, qui écrit vers 1550 un grand traité sur la lecture des signes du visage, traité de métoposcopie, qui va être publié que 100 ans après sa mort, donc de manière posthume, par les soins de Thomas Joly, et qui comprend 12 livres consacrés au langage des rites, accompagné de 800 figures, et un 13e livre sur les marques cutanées avec 120 figures. Et là, on a la source de Cardan pour ce traité sur les marques de la peau, puisque c'est le petit traité de Mélampous en grec qui est donné dans l'édition de 1658 de Paris. Et il faut savoir que ces traités, s'ils connaissent une énorme vogue à la Renaissance, où là on connaît le nom de Mélampous, sont tombés dans l'oubli. Boucher Leclerc, dans son traité sur la divination dans l'Antiquité, en 1879, je pense qu'on est un des responsables, pour lui tout ça, c'est, il le dit, la plus ridicule des divinations antiques. Et il la traite de dégénérescence de la physiognomonie scientifique, parce qu'évidemment, le corps est réduit, atomisé, il n'y a plus que cet élément, la verrue qui bouge d'un endroit à l'autre du corps. Mais vous allez voir que quand on y retourne, en y posant d'autres questions, on y découvre une mine d'informations. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On va regarder d'un petit peu plus près. Et pour le plaisir, ben, je vous mets les dessins qui sont tirés donc, de l'édition de Jérôme Cardan, où on voit ce petit nodule qui bouge d'un endroit à l'autre du front. Il y a 26 affirmations qui offrent une interprétation positive des marques. Et c'est ça qui est intéressant. Et qui peuvent permettre de comprendre pourquoi on les a montrées. Alors, bon, marque des Elaya. Divinatoire, mais aussi psychologique. Et la valeur va donc varier selon l'emplacement sur le corps, sa localisation, si c'est à gauche ou à droite, et aussi selon le sexe du destinataire, selon que c'est un homme ou une femme. Parfois, on arrive à comprendre la logique, parce qu'on voit que c'est lié vraiment à l'endroit où se trouve la marque. Le front est associé au pouvoir. Donc, si l'homme a une tache sur le front, alors je traduis l'aïa par tache, par commodité, il possédera de nombreux biens. Si c'est la femme qui en a une sur le front, elle régnera ou sera très importante. Pensez à nos portraits. Si l'homme a une tache au-dessus du sourcil, il épousera une femme vertueuse et belle. Si une femme en a une de couleur rousse au même endroit, elle épousera un homme riche et beau. Par contre, si l'homme a une tache sur son sourcil, il doit éviter de se marier, car il sera l'homme de 5 femmes, et de même pour la femme. Si l'homme a une tache de couleur rousse sur le nez, alors là, il y a une symbolique du nez qui apparaît. Il sera insatiable en amour. Si la femme a une tache sur le nez ou près de l'œil, elle aussi sera infidèle. Alors, c'est amusant parce que insatiable ne veut pas forcément dire infidèle. Mais bon, ça, c'est une interprétation. Et si l'homme a une tache sur la joue, il sera riche. Si la femme a une tache sur la mâchoire inférieure, elle sera encline à être malade. De même, si elle en a une sur le bas-ventre. Et on continue, donc... Voilà. Si l'homme a une tache sur la langue, alors là on a un peu plus de peine à saisir ce qu'on entend par Elaya, il épousera une femme riche et belle. S'il a sur la lèvre, il sera glouton. Donc là aussi on voit le rapport physique. Hein. De même pour les femmes. Donc sur le menton, il sera riche en or et en argent. Ceci vaut également pour la femme. De même, quand elle a une tache sur la rate. Et là, nous on le comprend comme étant donc, sur la rate, pas proprement dit, mais sur la peau qui est au-dessus de la rate. S'il a une tache sur l'oreille, il sera riche et renommé. La même chose vaut pour la femme. De même, c'est une tache sur la cuisse. Vous allez tous vous examiner ce soir, je suis sûre. Une tache sur la lèvre ou sur le ventre indique ainsi un tempérament glouton. Voilà. Et là, l'homme, donc, avec une tache sur le cou, il sera très riche. Cela vaut également pour la femme. Les rares cas où c'est négatif, c'est comme ici. Hein, si l'homme a une tache sur la nuque, il sera décapité. Donc là, voilà. Et ça, ça se retrouve dans la tradition arabe. Alors, il y a vraiment des correspondances très, très fortes. Donc, parfois, on a une logique corporelle qui est évidente. Là, je ne vous donne pas les textes, mais donc, quand c'est dans un lieu caché, cryptone, on aura de nouveau un tempérament sexuel insatiable. Sur le sexe de l'homme, on aura la naissance de garçon. Si c'est sur le sexe de la femme, la naissance de fille. Mais des fois, la logique est moins facile à saisir. Alors, si quelqu'un a une idée, par exemple, si sa tâche se trouve sur les mains, l'homme et la femme auront beaucoup d'enfants. Si elle est sur la poitrine, ils seront pauvres. Voilà. Donc, tout n'est pas clair hein, de la logique qui gouverne cette géographie corporelle. Alors, on peut se demander quelle a été l'influence de Mélampous ou d'autres traités similaires à Rome. On peut imaginer que sa vogue a dû suivre celle de la physiognomonie de l'époque hellénistique à l'époque impériale. J'ai signalé le nombre de papyrus. Alors, c'est surtout pour le traité sur les tressaillements. On en connaît une dizaine hein, de l'Égypte romaine. Et autrement, on en trouve beaucoup d'allusions dans la littérature. Je vous montre ici un exemple pris chez Suétone qui se réfère à cette prise de marque corporelle par un spécialiste. Alors, il se traduit dans l'édition des Belles-Lettres par physiognomonisme, mais en fait, on a bien compris que la métoposcopie, ce n'est pas forcément ça. Donc Narcisse fait venir un de ses hommes, la franchise de Claude, pour étudier le visage de Britannicus, qui dit que celui-ci n'avait aucune chance de devenir empereur, mais que Titus le serait certainement. Mais évidemment, le texte ne lui dit pas ce qu'il a observé. Par contre, on a des textes assez étonnants, comme celui-là, c'est un des plus anciens, c'est Velleius Paterculus, qui se rapporte à Sylla, donc Sylla, le dictateur. Donc on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, même début du 2e, où on nous dit qu'ayant rétabli l'ordre dans les territoires d'outre-mer, Sylla fut le premier de tous les Romains à recevoir les ambassadeurs des Parthes. C'est pour ça que je vous ai fait signaler qu'il y avait peut-être un savoir du côté des Parthes. On a vu ce monnayage des rois Parthes avec un odule qui se promène sur le front. Eh bien voilà, des ambassadeurs des Parthes qui viennent voir Sylla. Il y avait parmi eux des mages qui, en réponse à ces questions, déclarèrent que certaines marques sur son corps indiquaient qu'il serait l'égal des dieux de son vivant et après sa mort. Mais de nouveau, on ne nous dit pas ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est l'indication de la provenance de ces gens, hein, donc des devins Parthes. Et puis, il y a d'autres personnages de premier rang qui ont donné de l'importance à ces signes, notamment Auguste. Et là, on retrouve ce jugement positif qui s'explique à la lumière de Mélampousse. C'est encore Suétone qui s'intéressait beaucoup à la physiognomonie. Suétone nous dit qu'Auguste avait le corps parsemé de taches, et il utilise le terme de macula, concentré sur la poitrine et le ventre, qui reproduisaient par leur forme, leur disposition et leur nombre, les étoiles de la figure céleste de l'ours. Alors pour rire, je vous ai mis à côté un extrait de presse de boulevard américaine de 1991, mais qui est assez amusant parce qu'il annonçait la naissance d'un enfant avec le tatouage du système solaire, comme Auguste. Mais ils l'ont raté, c'était Auguste. Voilà. Voilà. Et du coup, on comprend mieux des phrases comme celle de Pline, qui dit maintenant encore, beaucoup de personnes regardent comme une impiété de se raser les taches du visage. Et je vous ai mis cette gemme. On a tous un doute, même les spécialistes ne savent pas. On a l'impression qu'il y a une verrue et qu'il y a peut-être même un poil qui sort de la verrue. En tout cas, il ne faut pas y toucher. Ça, c'est clair, il ne faut pas y toucher. Alors, vous comprendrez bien que là-dessus, on a très envie de relire tous nos portraits à la lumière de ces doctrines métoposcopiques. Verrues sur le sourcil gauche, sur la joue gauche. Mais évidemment, il y a les autres interprétations qui peuvent aussi se combiner, hein, comme l'identité familiale, enfin, voilà. Un petit excursus sur les taches de naissance, mais très rapidement. Les termes peuvent se recouper. Elles occupent une place à part, peut-être dans la mesure où elles ne sont pas produites par une mauvaise coction des humeurs, mais par une intervention extérieure, donc soit maternelle, c'est dû à l'alimentation de la mère, soit divine, mais elle possède à ce moment-là, quand c'est divin, une valeur prophétique. Alors, juste sur l'alimentation de la mère, vous connaissez sans doute ce passage de Pline qui nous dit que tout a de l'importance chez les femmes enceintes, c'est au point que si elles prennent des aliments trop salés, elles mettent au monde un enfant privé d'ongles, ou si l'on désire que les nouveau-nés aient les yeux noirs, il faut que la mère mange une souris pendant sa grossesse. Ou encore, mais là je remonte à Hippocrate, si une femme enceinte a envie de manger de la terre ou des charbons et en mange, l'enfant qui est mis au monde porte sur la tête un signe provenant de ces choses. Donc on peut avoir des signes sur le corps, mais qui sont dus à autre chose que l'expression de son propre tempérament, mais qui viennent de la maternité. Il y a aussi l'intervention divine. Et là, je vous montre l'exemple le plus fameux. C'est celui du fondateur de la dynastie des Séleucides, où l'histoire de sa naissance est vraiment sous le sceau du surnaturel. On a beaucoup de gens de ce genre-là, comme la naissance aussi d'Alexandre. Hein. La mère de Séleucos aurait eu une vision. La vision qu'elle avait conçue pendant son sommeil des œuvres d'Apollon est rendue grosse. Elle avait reçu du dieu un présent pour cette union, un anneau sur la pierre duquel une encre avait été gravée. Jusque-là, c'est assez banal, mais l'anneau portant la même gravure fut trouvé dans son lit, et surtout, d'autre part, la forme d'une encre qui naquit sur la cuisse de Séleucos, avec le bébé lui-même, rendirent cette vision étonnante et viennent justifier cette vision. Donc ça s'est bien produit, il a cette tache de naissance, mais qui vient d'une intervention divine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait par d'autres textes, Troc-Pompée va le dire, la preuve de son origine demeura dans sa postérité, puisque ses enfants et ses petits-enfants eurent une encre sur la cuisse, marque de naissance familiale, pour ainsi dire. Et là, on a l'image, alors, j'ai cherché des images de tache de naissance, et là j'en ai une, bon elle est un peu dérivée, mais vous avez l'image d'une tache de naissance, puisque l'encre va devenir le logo, hein, de la famille des Séleucides. c'est l'emblème de leur monnayage. Et l'emblème de leur monnayage langue, c'est la tache de naissance de ces Leucos. Donc, une histoire vraiment doublement remarquable, puisque c'est une histoire de tache de naissance qui a une forme et qui devient l'emblème de toute une dynastie. Est-ce une coïncidence? On sait que ces Leucos reçut le gouvernement de Babylone, qui est le berceau de la métoposcopie. Voilà. Alors, je reviens enfin sur ma galerie de portraits pour faire un petit bilan de ce parcours. Les anomalies corporelles qu'on a vues sur ces portraits de notables, mais aussi d'affranchis du 1er siècle avant, c'est surtout le 1er siècle avant, 1er siècle après, mais on a vu que plus tard ça continue. On aura compris qu'elles ne constituent pas de simples traits individualisants, comme pourrait le faire penser le traité de rhétorique d'Hérénus ou les signalements d'Égypte romaine. Elles traduisent d'autres préoccupations qui se situent à différents niveaux, familiaux, politiques, médicaux et divinatoires. Alors, je ne vais pas dire que c'est ou l'un ou l'autre, ça s'est modulé selon les cas. Si elles sont héréditaires, c'est qu'elles mettent en jeu la notion d'identité familiale. Elles peuvent être à l'origine de la nomination d'une famille, comme dans le cas de Cicéron. Elles peuvent devenir le signe de l'identité dynastique, comme la verrue des rois parthes ou la tache de naissance des Séleucides. Elles permettent aussi d'exprimer l'identité sociale du modèle. Elles peuvent avoir une dimension politique. Et là, je reviens sur ce portrait d'affranchi, Amphio. On pourrait dire aussi qu'il affiche une verrue pour faire plus romain, pour faire aristocratique. Et sur le plan médical, donc, ces marques naturelles font référence à une conception humorale du corps et de la peau, reflet de l'âme et du tempérament, mais aussi signe du destin. Et ça, c'est la dernière phase, le dernier élément de ce parcours, comme le propose la doctrine métoposcopique. Donc, on peut y lire les signes du destin. Je mets toujours un peu à part les tâches de naissance. Je crois que c'est assez important, puisqu'elles ne viennent pas vraiment du corps et de ses humeurs, mais qu'elles viennent de l'extérieur. Et quand le dieu en est responsable, comme chez ses Leucos, elles témoignent donc de sa bienveillance, elles deviennent un signe héréditaire de la légitimité du pouvoir. Elles inscrivent l'homme dans un ordre cosmique, comme pour Auguste. Donc voilà pour la complexité de ces tâches. Maintenant, j'aimerais terminer en ouvrant une autre piste de recherche et en revenant au traité de métoposcopie de Cardan. Il a quand même composé un traité où 12 livres sont consacrés au langage des rites, accompagnés de 800 figures. Il n'y a que le 13e qui sont sur les marques cutanées avec 120 figures. Et là, grâce à l'édition française, celui qui réalise l'édition française met la source de Cardan. Mais Cardan lui-même ne donne pas sa source, il ne dit pas qu'il cite Mélampous. Et bien sûr, pour les rites, il ne cite pas de source non plus. On ne connaît pas les sources. Donc, parmi les pistes de recherche, il reste celle de la lecture divinatoire possible des rides du visage, selon la technique développée par Cardan, qui, lui, il lit des correspondances astrologiques. Je vous montre un de ses dessins où, pour lui, à chaque ride correspond une planète. Et donc, pour lui, cette configuration est comme une carte astrologique. C'est l'homme, le visage de l'homme est le miroir de l'univers. Mais on est quand même troublé, comme je vous l'ai dit, en regardant certains portraits de l'époque républicaine. On est quand même interpellé par cette variété, par l'étrangeté aussi de ces rides, dont la disposition est parfois très complexe et inexplicable, pas très naturelle non plus. Comme ici. On a vraiment l'impression que ça compose comme un signe. Et on peut se demander si ces rides sont elles aussi codées comme pouvaient l'être les verrues. Mais vous avez vu que je suis très prudente. Je ne dis pas que c'est une explication qui doit écraser toutes les autres. Ça doit s'ajouter au panel des explications possibles. J'ai cherché chez les physiognomonistes, mais évidemment, il n'y a rien du tout, ou pas grand-chose. Pour eux, c'est les yeux qui sont importants. Les rides, finalement, pas tellement. Et c'est assez étonnant. Le seul passage que j'ai vraiment trouvé, c'est l'anonyme latin qui dit que ceux qui ont au front des rides verticales, surtout à la racine du nez, sont des méditatifs. Et puis, finalement, je suis repartie du côté de la chiromancie, qui, comme vous le savez, est l'art d'interpréter les plis de la main. Et des plis de la main qui sont parfois décrits comme des rides. Comme dans la Souda, on parle de rides rutis en grec, et en latin de ruga. Donc on parle de rides de la main. Et c'est un savoir qui, lui, n'a pratiquement pas laissé de traces écrites. Il n'y a qu'un minuscule fragment d'un traité de Quirome aussi, qu'on va d'ailleurs ajouter dans notre publication, parce que ça fait partie de cette mouvance. Donc un tout petit fragment de traité anonyme. Donc c'est un savoir qui a circulé jusqu'à aujourd'hui de façon orale. Il n'y a qu'un passage de Juvénal, et là ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez, qui pourrait faire penser qu'on a effectivement lu les rides du visage comme on lit les plis de la main. C'est dans les Satires, où on dit, à propos d'une femme, si elle n'a pas de fortune, c'est un texte assez, un passage assez énigmatique, elle parcourra l'espace entre les deux bornes, elle tirera au sort, elle tendra le front et la main au devin. Alors, qui demande un claquement de langue, de lèvres réitéré, là aussi j'aimerais bien une explication, on ne l'a pas, mais elle tendra le front et la main, comme si c'était équivalent pour une même lecture des plis ou des rides. Et c'est un savoir que connaissait peut-être Cardan, qui connaissait beaucoup de choses, mais qui n'a pas donné ses sources. Et cette hypothèse permettrait d'expliquer les rides parfois exceptionnelles, comme celle de ce visage d'un prêtre égyptien. C'est une pierre noire qui mesure 42 cm, qui est à Munich. On voit donc cet homme debout en position de marche. Il est appuyé à un pilier dorsal. Et on a des rides normales. Et puis ici, une sorte de demi-cercle, un ensemble comme ça, très étrange, hein, qui, à la racine du nez, qui forme une sorte de cercle énigmatique. Est-ce qu'on a voulu traduire un mouvement de la peau, puisque, comme je l'ai dit, il y a cet autre traité de Mélampou sur les mouvements de la peau qui tressaillent et qui sont des signes, une sorte de signe de manifestation d'une force surnaturelle, ou est-ce que ce serait en soi l'empreinte du dieu à la manière des animaux sacrés égyptiens qui sont toujours désignés par des marques corporelles distinctives? Je mentionnerai par exemple celle qui désigne le taureau Apis, incarnation de Ptah. Ce jeune taureau que l'on nomme Apis présente les signes que voici. Il est noir, il porte sur le front une marque triangulaire, il a sur le dos l'image d'un aigle, les poils de la queue sont fourchus, et sous la langue, l'image d'un scarabée. Et on en retrouve ça, par exemple, chez Hélien, qui nous parle des marques réparties sur le corps de l'animal, qui chacune symbolise une étoile et qui ont une correspondance cosmique. Alors, je vais terminer sur cette ouverture-là, et ce sera peut-être l'objet de la prochaine visite à Poitiers. Et ça, c'était juste pour vous montrer encore la longue durée de cette croyance sur cette lecture des Elayas. Ici, c'est un traité que vous pouvez trouver sur Internet, aujourd'hui. Hein, lecture, alors je ne vous ai pas mis le texte correspondant, mais voilà ce que signifie le fait d'avoir un grain de beauté à tel ou tel endroit du corps. Alors ça va signifier que vous aurez de la chance, que vous aimez voyager, que vous allez bien vous marier, que vous ferez des bonnes études. Alors vous tapez simplement sur Google, grain de beauté, corps, divination, Europe. Vous tombez sur une page de ce genre-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. J'espère que vous avez des verrues à me signaler.
Merci à vous, c'était passionnant. Merci infiniment, c'est régalé si je puis dire. Il y a des questions dans la salle? Des étudiants? Ah, monsieur qui pose toujours des questions, vous n'êtes pas étudiant. Bon.
Je suis sculpteur, tailleur de pierre. Et vous avez pris la comparaison avec Moses Dayan,
oui,
avec McCain. Et j'ai un peu surpris que vous n'ayez pas pu prendre un exemple dans l'art contemporain, et même un peu plus ancien, de Rodin et de Bacon,
oui,
qui en fait ils ont pris la liberté d'exploiter tous ces subterfuges pour créer des images, des masques, des visages vraiment étonnants. Mais en fait, ils n'ont rien inventé parce que je vois que dans les belles images que vous avez passées de l'époque romaine, tout était fait. Mais je me pose une question. L'avant-dernière figure que vous avez passée en granit avec le front, avec la...
C'est là, pardon.
Et voilà, c'est là, oui.
Oui.
Si vous partez à la racine du nez à haut et ça reprend la sourcil, et en fait, peut-être tout simplement une liberté du sculpteur, parce que si vous allez à droite, après la première courbe, comme ça, vous retrouvez ce que normalement les deux lignes là sont au milieu. Et c'est probablement une je ne dis pas une fantaisie, mais il a voulu accentuer davantage ce passage de la racine du nez à la sourcil, et il a décalé les deux lignes verticales que normalement, même aujourd'hui, nous avons comme ça normalement, symétriques. Parce que si vous regardez bien, sur le côté, il a gardé la symétrie.
Les œuvres égyptiennes sont intéressantes parce qu'elles sont réalisées dans des pierres très dures. Donc c'est vraiment pas un mauvais coup de ciseau, hein, c'est vraiment voulu. Merci.
Moi, j'ai une question sur le fait que tu n'as que des hommes.
Ouais.
Alors, c'est pas une question parce que je pense que tu aimerais bien avoir la réponse.
J'en ai une de femme. Hein.
Ouais. C'est très, très étonnant parce que tu démontres que pour certaines, c'est la filiation, c'est la mise au monde. Enfin, voilà.
La filiation est peut-être plus importante pour les hommes.
Oui, c'est voilà. Je n'ai plus rien à dire. Mais le fait que les femmes, on le sait par ailleurs, hein, se cachent derrière les phares en particulier, hein, se maquillent et cachent leurs rides, leur défectuosité, enfin, Ovide le montre assez bien. Donc elles ont aussi vraisemblablement des tâches, je pense à des tâches de vieillesse aussi, hein, par exemple, parce que le maquillage sert d'abord à masquer la peau et les défectuosités du visage. Et là, tu n'as pas de femmes, et on sait que la représentation romaine a plus de femmes, par exemple, et rien. Oui, même dans les portraits du Fayoum, rien.
Alors, les portraits du Fayoum sont énigmatiques, puisque, à part celui que je vous ai montré, qui a cette marque, et là, bon, j'ai consulté plusieurs personnes, je n'ai pas pu aller le voir à New York, parce qu'il se trouve à New York, mais apparemment, ceux qui ont vu l'œuvre sont formels. Il y a vraiment intentionnellement ce point noir sur l'aile du nez. Il n'y a aucune marque identitaire, en fait, sur les portraits du Fayoum. Alors qu'on en a beaucoup dans les papyrus, dans ses recherches, ou même tout simplement dans les contrats, pour identifier quelqu'un, on dit tel et tel, qui a... Alors, on fait souvent référence aux cicatrices ou aux taches pour identifier quelqu'un. Donc tel et tel va signer, et c'est celui qui a une cicatrice à la jambe, pour pas qu'on se trompe. Eh bien, les portraits du Fayoum ne les montrent jamais. On a des portraits, oui, mais... Pas ce genre d'éléments individualisants.
Alors,
exactement. Et ça vient peut-être de la fonction de ces portraits, donc je soulignais cette dimension publique, et c'est pour ça que j'ai montré des hommes publics, comme McCain et Moshe Dayan, des hommes politiques, parce qu'on est dans la sphère du politique et du masculin. Donc c'est une sphère assez particulière.
C'est à Le Pen qui avait avant son...
Jean-Marie Le Pen, à un moment de sa carrière...
Il a mis son... Je me demandais si on pouvait, étant donné que les particularismes de ces personnages, on peut les deviner. Donc il peut y avoir des interprétations qui sont heureuses. Est-ce qu'on peut imaginer que les personnes se mettaient des fausses verrues à certains endroits pour avoir un avenir plus... Enfin bon, pour conjurer le sort, si je puis dire.
Non, j'en suis pas là. Moi, j'en suis plutôt à me demander si on n'a pas des portraits. Si j'en rate parce qu'elles étaient peintes, ajoutées sur les portraits. Hein. On sait que les portraits romains sont peints. Et donc, certains ont dû disparaître. Voilà. Donc, je suis plutôt à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que les gens eux-mêmes... Non, on n'a pas tellement de références à ça dans la littérature. C'est plutôt... On a l'exemple, c'est toujours chez Martial ou Juvenal, du parvenu, de l'affranchi qui veut dissimuler une marque qu'il avait au visage. En fait, c'était une marque qu'il avait eue en tant qu'esclave. Et il utilise un subterfuge pour la cacher. Donc, il utilise des pastilles. Enfin, on ne sait pas très bien comment le traduire. Donc, ça va plutôt dans ce sens-là. Oui.
Ils s'observent,
je suis sûre.
Je ne sais pas ce qu'il faut avancer. Non, mais vous pouvez. Allez-y, puisque vous parlez entre nous. Hein.
Ouais, ce serait une question par rapport aux verrues qui apparaissent sur les visages. Je suppose que ça va être assez difficile pour le sculpteur de représenter ce genre de détails. Donc, est-ce que parfois il y a pu avoir des ratés et comme vous le dites, que ces verrues ont pu être représentées par une pointe noire de peinture ou quelque chose comme ça?
Alors, je vais vous remontrer un des plus beaux exemples où on voit l'habileté de l'artiste. C'est la tête verte de Boston qui est magnifique. On a voulu montrer cette nodosité. Il n'y a aucun doute, c'est volontaire et c'est très, très bien réalisé. Oui, le portrait d'Amphion à Berlin. Là aussi, on a voulu le faire. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le sens de votre question, mais en tout cas, là où en montons, donc y a la volonté est bien claire. Alors, ce que je disais, c'est que si des portraits sont peints, qu'on a pu les rajouter. Mais voilà. Oui. Donc, c'est bien possible. Alors, il y a des absences quand même. Et là, je peux en relever, peut-être vous en avez relevé. Donc, on a vu le menton, on a vu le sourcil, on a vu le front, la joue. J'en ai aucune sur le nez. Aucune sur le nez. La verrue sur le nez est absente. Mais on a vu que... je me demande si ça, c'est pas trop connoté. Et ça peut être connoté négativement. On a vu que dans le traité de Mélampousse, c'était connoté négativement. Donc, et c'est intéressant parce que chez nous, on a tout cet imaginaire de la sorcière qui a la verrue sur le nez. Donc je me disais, je vais en trouver beaucoup. Et il n'y en a pas du tout. Alors je ne sais pas de quand date la sorcière qui a la verrue sur le nez.
Parlant de sorcière, pardon d'être un peu dans la même veine, mais ça n'apparaît pas avec l'âge, les verrues, qui fait que... Non mais... C'est assez rare de... Non, je suis connerie, là. C'est assez rare de voir des gens très jeunes. Les enfants, de manière générale, n'ont pas de signes corporels. Les tâches, certaines tâches sont de naissance, mais les grains de beauté apparaissent avec l'âge. Et chez les vieilles personnes ou les personnes d'âge avancé, on voit plus spontanément des petites choses qui poussent. Plus spontanément, quand même. Tu vois, Ils sont d'un âge avancé, tes messieurs, quand même.
Voilà. Ouais. Alors bon, la problématique des portraits d'enfants, où effectivement, il n'y a rien de tel. Mais oui, en même temps, le portrait se réalise dans un contexte particulier. Ouais. Donc, il fait partie du schéma représentation aussi du vieillissement.
Oui, c'est ça.
Mais par exemple, celui-ci de Séville, c'est un étudiant qui voyageait en Espagne qui m'a ramené la photo.
On va tous aller dans les bleus.
Oui.
On va tous.
Vous allez regarder les portraits, surtout républicains. Hein, oui.
Très très bien. Ça,
qui sont magnifiques. Qui sont tous magnifiques d'ailleurs. Il y a une intensité dans la volonté de représenter l'individu qui est remarquable, qui est très spéciale. Il y a une intensité spéciale. Ceux-ci sont plus tardifs. Mais pour l'exemple de Goule romaine, ça peut être une façon de faire romain, de copier la mode romaine. Ouais. Et sur les gemmes, là aussi, il y a une volonté très nette. Quoi. Mais il est anonyme. Il est individualisé, mais anonyme.
À Naples, il y a un musée d'antiquité où sont représentés des visages individualisés, bien marqués, sur des corps jeunes.
Oui.
C'est très laid.
Je les ai bien regardés, ils n'ont pas de verrues. mais là, c'est le jeu du romain. Enfin, c'est des choses qu'un grec n'aurait pas fait. C'est d'avoir à la fois comme le général de Tivoli, encore, qui est merveilleux d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit laid, c'est fascinant, disons. Mais
la compétition, surtout, en voyant des romans de visage âgé et un corps très musclé, ça sonnait très prétentieux, très jeune.
que pour le moment, je n'en ai pas trouvé ailleurs. Voilà, général de Tivoli, qui a vraiment, qui a lui aussi ce corps héroïsé, vraiment. Par contre, un visage extraordinaire, une humanité extraordinaire. Marqué, c'est un visage très intéressant, mais le corps est tout à fait à un autre niveau. Et ça compose un discours proprement romain sur le corps. Donc là, il n'y a aucune marque.
Pourquoi il ne montre pas la réalité par rapport au corps? Pourquoi c'est décalé en fait? Pourquoi il montre bien la vieillesse sur le visage? Et pourquoi il montre un corps jeune, justement? On peut se demander si le visage, du coup, c'est vraiment la réalité.
C'est une très bonne remarque. Est-ce que ces visages républicains sont réalistes? Qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que le mimétisme? Le Romain est fasciné hein, par la reproduction du réel, mais... On serait peut-être, nous, très choqués de voir à quoi ressemblaient vraiment ces gens. C'est aussi un code, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que ces rides, on compose l'image qu'on veut se donner de soi. Et là, c'est un goût particulier. Où est le problème, quoi? On veut montrer, on tient un discours par cette statue. On montre à la fois un général vainqueur, donc au corps intact, donc qui survit à tout, et en même temps, c'est un homme, c'est bien un des nôtres. Et il se fait représenter d'une façon réaliste, entre guillemets. Et je pense qu'effectivement, il faut être très prudent sur ce réalisme.
Excusez-moi. C'est une supposition d'être sculpté si fièrement dans sa vieillesse, comme je le suis aussi, c'était manifesté, affirmé que la mémoire de l'histoire qu'il a vécue, son portrait, ça nous porte à voir tous ces faits accomplis que cet homme a pu faire. Et alors là, ça deviendrait une investigation vaste.
Et on voit, il est un peu fatigué quand même, hein. Il est un peu là, mais c'est un homme fort et qui traverse les siècles, et son corps traverse les siècles.
Et on peut comprendre cela si vous allez voir le Spy à Paris. Il y a les portraits, enfin, il y a la statue que Rodin a fait de Balzac. C'est pas comparable, mais elle est comparable dans l'expression de puissance. Il a fait un Balzac presque astrait et qu'il est là comme ça, imposant, avec sa poitrine, son visage. On dirait un nuage menaçant. Et là, le sculpteur, c'était Rodin quand même. Il était vraiment très fort. Et je suppose que même dans l'art classique, dans l'art antique, il voulait rattraper cette force-là.
Oui.
Et Rodin, il vient de là.
Certainement.
Merci beaucoup, vous reviendrez. Merci à vous.
Merci.
Merci.